La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Alors maintenant, place au talk. Explorer sa double culture à travers la musique et vice-versa. Et merci d'accueillir Sheng, Hadj Samir et Kondo. Alors, Sheng est rappeuse émergente de la scène hip-hop et R&B aux sonorités chinoises. Hadj Samir est collectionneur de vinyles et auteur du documentaire que vous avez vu en première partie, The Rai Is Not Dead. Et Kondo, il est rappeur, musicien et cofondateur de la Clica, qui vient de sortir son dernier album qui mêle des rythmes de son pays d'origine, le Bénin. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu à mon invitation pour parler en fait de mêler sa double culture à la musique. Je vais vous donner les micros. Alors, première question, comment ça a été ce déclic où vous vous êtes dit, bon, j'ai envie de parler de ma double identité, ma double culture, c'est le moment. Je sais que Kondo, toi, tu es dans la musique depuis plus de 20 ans. Et c'est ton cinquième album que tu viens de sortir, Plus haut que la Tour Eiffel. Et c'est dans cet album que tu as décidé de reconnecter avec, avec ton pays natal, le Bénin. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Ouais. En fait, c'est que je fais partie de cette génération hip-hop qui, pendant longtemps, a cru que, en tant que noir vivant en France, on était des noirs américains. Et à cause de la télévision, à cause des clips qu'on regardait, moi, je suis né avec UMTV Rap que je regardais de l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment, en fait, il y a eu toute une réflexion qui s'est faite sur comment j'allais pouvoir raconter une autre histoire. En fait, il y a un moment, on a plus envie de se prendre pour N.W.A. ou pour Wu-Tang. On a juste envie d'être. Donc, quand ma fille est née, j'avais 35 ans. J'avais envie de retrouver mon père pour qu'on discute parce qu'on s'était pas vu depuis que j'avais 18 ans. Et en fait, en tirant le fil, en cherchant mon père, je suis tombé sur un frère. Mon frère qui, lui, était dans une situation plus précaire que la mienne. Et donc, j'étais obligé de m'interroger sur comment ça se faisait qu'on soit de la même fratrie et finalement qu'on ait des parcours si différents. Donc, grâce à lui, j'ai pu retrouver mon père. Et on est rentré dans un échange épistolaire. Et puis, quelques années après, il est décédé. Et tout ça m'a fait comprendre que, moi, avec la musique, je suis un spationaute de la vie, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est rencontrer d'autres existences, rencontrer d'autres gens, d'autres mondes. Et donc, grâce à la musique, j'ai pu retrouver ma terre, en fait, ma terre natale. Enfin, je suis né en France, mais j'ai été élevé de 6 mois à 4 ans et demi au Bénin. Donc, j'ai retrouvé, en fait, la cour de mon enfance. J'ai retrouvé... En fait, j'étais fils unique de mère célibataire. Et puis après, je me suis retrouvé troisième d'une fratrie de 8 enfants. Et tout ça, ça fait que, à un moment, j'ai eu besoin que ma musique elle soit à l'image de ma vie et de ce que je suis. Et je crois qu'il y a eu d'autres gens qui, avant, avaient fait le chemin au niveau de la culture ouest-africaine. Je pense à Bisson Abisso, je pense à MHD, je pense à Niska. Des gens, pendant longtemps, j'ai regardé de travers. Parce que je me disais, ouais, mais c'est pas le rap qu'on connaît, c'est... moi j'étais un puriste. Hein, donc on a déjà une vision du rap qui était très, très rigoureuse, très droite. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était cette génération-là qui avait raison. C'est-à-dire de se dire, on se construit à travers qui nous a fait. Et moi, je reviens du Bénin cette année après l'avoir lâché depuis 40 ans, avec cette phrase qui est tout le temps en moi qui me dit, mais moi, je suis le fils de quelqu'un et je sais de qui je suis l'enfant, en fait. Et rien que ça, quand tu te balades dans ta culture avec cette force, et ben en fait, il y a quelque chose qui résonne mieux dans ton travail et puis surtout dans ta rencontre à l'autre.
Et toi, Samir, qu'est-ce qui a provoqué ce truc-là en toi de te dire je vais parcourir la France et l'Algérie pour aller rencontrer des gens et parler du rail?
Bonsoir à toutes et à tous déjà, merci d'être là. Merci à Linda pour l'invitation. Ce qui m'a le déclic, je pense, ou en tout cas la confirmation, ça a été la disparition de mon papa, moi. Mais avant ça, j'avais vraiment fait un travail introspectif et rétrospectif à travers les vinyles et les cassettes de ce qu'était le rail, mais pas que, parce que je collectionne de tout. Je collectionne du Bénin, de tout, des polyrythmes, etc. Donc j'ai vraiment... Je me suis particulièrement focus sur le rail dès lors que j'avais réalisé en fait qu'il y avait beaucoup de noms oubliés et que justement ces gens-là qui étaient contemporains à mon père et qui avaient à peu près le même âge, qui étaient de la même génération, allaient disparaître et rester dans l'oubli. Et mis à part les collectionneurs comme nous qui faisons un vrai travail de niche et de désarchivage et des fois de vulgarisation à travers YouTube ou d'autres plateformes ou des compilations, etc., c'est vrai qu'ils étaient méconnus du grand public. Et on connaissait les gens qui étaient, entre guillemets, surexposés et qui s'étaient inspirés de ces gens-là. Donc, je voulais un peu déconstruire tout ça. Et puis, bien évidemment, j'en ai une sensibilité toute personnelle parce que culturellement, c'est aussi le rail, c'est la bande-son de ma vie. Donc, c'est vraiment la bande-son d'événements familiaux qui m'a accompagné dans des célébrations très, très personnelles et très intimes. Et donc, du coup, j'étais content de transmettre ça aux gens à travers mon spectre, mais en tendant la main via les disques et les cassettes, via ma collection que je collecte depuis 15 ans. Et voilà, je pense que c'était une bonne démarche. C'était très compliqué pour moi, étant très introverti, d'être à l'écran. Et donc, je pense que c'était vraiment le meilleur prisme pour moi pour faire un travail éducatif en toute humilité, bien sûr, et de vulgarisation aussi pour les gens qui sont sensibles de près ou de loin, même qui n'ont pas du tout grandi dans cette culture-là.
Tout à fait. C'est ce que j'ai ressenti moi quand j'ai regardé le premier épisode. J'ai envie d'en savoir plus, même si c'est pas ma culture, même si c'est pas forcément la musique que j'écoute chez moi, mais ça donne envie en fait de faire des ponts en fait entre les différentes cultures. Sheng, moi quand je t'ai découvert, j'ai vu une jeune rappeuse qui rappe en mandarin. Et j'ai trouvé ça ouf de mélanger le français et le mandarin, parce que je n'avais jamais entendu ça avant. Comment est-ce que tu t'es dit, j'y vais, je le fais en mandarin? Est-ce que tu as eu une inspiration, quelque chose qui t'a lancé?
Bonsoir. Alors du coup, je pense que le principal déclic, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'était avant tout une remarque de ma grand-mère. En gros, j'ai commencé à écrire, ma grand-mère chinoise. En gros, j'ai commencé à écrire en 2019 et j'ai commencé à aller au studio vers fin 2019. Et quand j'ai commencé à envoyer les sons que je faisais, en fait, il y a ma grand-mère un jour qui m'a fait une remarque en disant « c'est super joli, mais c'est dommage, enfin, je comprends pas. » Parce que du coup, voilà, toute ma famille en Chine. Et c'est vrai qu'en fait, je m'étais dit, c'est vrai qu'ils comprennent pas les paroles puisque vu que c'est en français. Et en fait, j'ai commencé, à l'époque, je faisais surtout des freestyles sur Insta, et du coup, j'ai commencé à mettre un peu de mandarin. En ayant un peu peur au début, je me disais, je ne sais pas trop comment ça va être reçu, mais voilà. Au moins, quand j'en envoie à ma famille, ils comprennent. Et je ne sais pas, finalement, j'ai eu plutôt des retours positifs sur ça, et surtout des retours assez positifs de ma famille. Et même moi, en fait, je remarquais que ça me faisait du bien, parce que c'était aussi une manière... Enfin, j'étais à un moment de ma vie, enfin, je suis toujours, où mes liens avec... mon pays d'origine qui est la Chine commençait un peu à se distendre, alors que c'était un pays avec lequel j'avais été très très proche jusqu'à mes 12 ans. Là, ça fait 10 ans que je suis pas retournée. Et je sentais que je commençais, et je perds un peu la langue. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ma famille, de qui j'étais pourtant assez proche, avec qui on maintenait les liens, par FaceTime du coup exclusivement. Et en fait, commencer à mettre du mandarin, je pense ça a été, il y avait aussi un peu une question de nécessité sur le moment. Enfin, de base, je pense que c'était un peu pour faire plaisir peut-être un peu à la famille. Et parce que c'était aussi un challenge personnel de mettre du mandarin dans mes sons. Et aussi, au fur et à mesure, et encore aujourd'hui, je pense que ça me permet de garder un peu ce lien. Enfin, et de rendre hommage à cette culture qui m'a beaucoup apporté, quoi.
Toi, Kondo, donc, du coup, tu as trouvé des rythmes de ton pays donc le Bénin, mais tu navigues aussi entre le flamenco, le raï, de l'afrobeat dans ton dernier album. Est-ce que quand tu es retournée au Bénin, tu t'es sentie trop français ou complètement béninois?
Alors, quand on s'appelle Kondo Asokba, non, on est vraiment béninois. Mais parce que j'ai toujours rappelé avec mon prénom, moi. Donc, Kondo, ce n'est pas un pseudo, c'est mon prénom. Donc, déjà, ça t'ancre. Après, oui, y a la grande frustration, c'est peut-être celle qu'évoque Cheng, enfin, que je ressens, mais que Cheng n'a pas, justement. C'est d'être avec des gens, de comprendre tout ce qu'ils disent et d'être incapable de pouvoir répondre dans ta langue natale. Ça, c'est frustrant, quoi. Ça m'a donné envie d'en savoir plus et de prendre le temps de retourner plus chez moi, dans mon autre chez moi, pour en connaître un peu plus. Après, l'envie que j'avais avec Plus haut que la Tour Eiffel, c'était déjà toujours de pousser un petit peu les limites du rap français, où je viens. C'est-à-dire faire la première comédie musicale de rap. C'était ça ma première ambition. Et que le matériau qui me permettait de faire cette comédie musicale, c'était de raconter à travers un personnage hybride qui s'appelle Manga, la vie de mon frère, ma vie, celle de mon père, de ma mère, et puis de tous les exilés. J'avais envie de raconter le voyage de ce jeune qui part des rives du Bénin et qui arrive en France en passant par la voie clandestine. Et je l'ai fait avec le co-compositeur de l'album, Laurent Colombani, parce que lui aussi, il a cette double culture-là, où il est français et aussi tunisien. Et donc, tous les deux, on avait envie d'explorer nos origines à travers une rencontre, parce que lui aussi, vient du blues et du jazz, et moi, je viens du hip-hop et de la soul. Donc, se retrouver à travers un projet comme ça, c'était assez... salvateur pour tous les deux, quoi.
Moi, avec Nodé Process, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit waouh, ok, je vois un mec un peu comme moi, double culture, français, vietnamien, qui retourne dans le pays de ses origines. Je voyageais au Vietnam un peu de manière passive, où j'absorbais beaucoup les choses sans vraiment me rendre compte que j'étais vietnamienne. Et de le voir à l'écran, ça m'a renvoyée à ça. Et je crois que j'ai jamais vu avant ça, avant le documentaire Rise Not Dead de Nodé Process, des jeunes parler de leur double culture. Toi, Samir, est-ce que tu t'es senti à ta place quand on t'a proposé ou quand t'as voulu faire ce documentaire, en fait, de parler de ça?
Je pense que nous trois, nous quatre et beaucoup de gens dans la salle seront concernés par ça. Il y a vraiment des enjeux culturels et une responsabilité finalement qu'on nous attribue qui est dure d'assumer. Moi, je sais que je suis musulman, j'ai une famille qui est très traditionnelle, donc j'ai aussi la culture locale de notre ville et je suis franco-algérien d'origine, enfin je suis né en France et je suis d'origine algérienne et j'ai une grosse empreinte de ma culture algérienne parce que moi, mon papa, il nous ramenait au bled tous les étés et puis on passait vraiment presque des séminaires linguistiques là-bas. Donc Je regrette presque que tu ne parles pas le fond, tu vois. Et moi, justement, c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de faire ce documentaire, c'est de montrer aux gens qu'il existe beaucoup de jeunes comme nous, ou des gens issus de la diaspora, quelle qu'elle soit, qui ont trouvé un équilibre parfait entre la culture d'origine et puis la culture du pays d'accueil de nos parents. Et c'est aussi ça, la magie de la France, je pense, c'est qu'à une époque où, justement, on clive les différentes origines ethniques et les appartenances religieuses quand il y en a, il y a une belle osmose qui existe, déjà intrinsèque vis-à-vis de moi et de ma double culture, mais aussi entre les cultures d'origine. Et tu vois, la communauté vietnamienne en est l'exemple. Et moi, je voulais passer juste un message positif, en dépit de la responsabilité des enjeux qu'il y avait derrière. Je pense que ce qui a permis de débrider tout ça et ce qui a permis aussi aux gens de percevoir le message brut, c'est la bienveillance, c'est la passion. Moi, la musique, c'est ma passion. J'ai jamais menti sur ça. J'ai 32 ans et ça fait 15 ans que je collectionne des disques et que je voyage partout dans le monde. Et ça, les gens l'ont ressenti, et y compris donc les gens de mon pays d'origine qui ont le regard le plus critique vis-à-vis d'un enfant du pays. Et c'était très compliqué comme exercice. Mais je suis sorti de ma zone de confort. Et après, moi, ce qui m'a aussi facilité la vie, c'est que je parle la langue commune, qui est la Darija, qui est un arabe parlé, en fait, qui n'est pas littéral, mais qui est un arabe parlé commun que beaucoup d'entre nous parlent. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, évidemment, tu as tout un processus de dépoussiérage où tu sors un artefact, un disque devant l'artiste, et l'artiste ne l'a pas vu, le disque, depuis 40-50 ans. Et donc, tu as un vrai truc comme ça, organique, qui fait que tout se déconstruit, puis les gens prennent le truc comme ça, en face, en pleine face, quoi. Et ça, ça m'a beaucoup aidé.
Alors là, aujourd'hui, on a des intervenants qui ont des générations différentes. Et donc, je disais en introduction, Sheng, toi, tu es une jeune rappeuse émergente de la scène hip-hop. Est-ce que tu avais des modèles de rappeuses, donc femmes, qui évoquent aussi leur double culture ou qui rappent dans leur langue en même temps que le français ou...
Alors, j'avoue que j'avais pas de modèle femme, c'est-à-dire qu'avant de me lancer, j'avais pas des modèles comme ça en tête, mais c'est plus en commençant à intégrer, entre guillemets, enfin, davantage approfondir le monde de la musique que j'ai rencontré des artistes, des rappeuses qui rappaient aussi en fait dans leur langue d'origine. Et c'est, j'avoue qu'au départ, non, j'en connaissais pas vraiment, et c'est plus en entrant dans le milieu, entre guillemets, en commençant à côtoyer des artistes, que j'en ai rencontré des hommes et des femmes qui chantaient, rappaient dans leur langue. Et c'est vrai que parfois, ça peut entraîner des discussions assez intéressantes autour de ça. Et j'ai l'impression que pour chacun, c'était aussi... C'était une manière aussi de se reconnecter à notre culture, à notre origine. Parce qu'en plus, pour la plupart, les gens de mon âge, on est pour beaucoup nés en France, etc. Et du coup, c'était une manière un peu de garder ce lien, quoi.
Est-ce que c'était possible, ça, au tout début, quand tu as commencé, toi, Kondo, d'avoir des rappeurs qui rappent dans leur langue d'origine ?
Ouais, il y avait ça. Après, c'était pas répandu, mais... J'ai une phrase, là, mais j'ai peur de la dire parce que c'est en arabe et tout. Mais... sur Radio Nova, il y avait quelques rappeurs qui mettaient quelques mots d'arabe dans le texte. Et c'était assez intéressant. Je ne l'ai plus bien en tête, donc je ne vais pas m'y risquer. Et ce que j'ai trouvé puissant dans les reportages, dans Raïs Not Dead et dans No Day Process, c'est vraiment que... je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays où on peut tous s'asseoir comme ça, les uns à côté des autres, et discuter aussi sereinement des choses qu'on traverse, parce que pour le coup, je me reconnais très bien dans nos déprocess, et je me reconnais très bien dans Rise Not Dead. C'est-à-dire que c'est vraiment, en plus, c'est drôle parce que c'est vraiment des musiques et des façons de penser, des façons d'être que j'ai dans ma vie de tous les jours. Je veux dire, Rise Dead, en fait, tout ce qu'il a dit là, moi je l'ai vécu, c'est ma génération, donc j'ai vu ce phénomène-là émerger. Mes copains, ils écoutaient ça. Je sais qui est qui. Sur l'album d'avant, j'avais fait un morceau qui s'appelait Comme des particules. Je racontais ma rencontre avec Rachida dans la rue, comme ça, un soir. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien en France quand même. C'est pas aussi clivé qu'aux États-Unis. Et puis, quant à No Day Process, ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même un langage qui est universel, c'est le langage musique. C'est assez fou quand même, et même le langage hip-hop. Parce que je me souviens d'être une fois arrivé à Lorient, j'étais avec ma fille en vacances, et je suis dans un Airbnb, et puis il y a un mec qui a une trentaine d'années, il me regarde, il me fait « T'es pas Kondo, toi, de la Clica ?» Et je lui dis « Ouais, ouais ». Et j'ai passé mes meilleures vacances. Donc, j'étais chez le propriétaire. Après, il m'a emmené... c'était un mec, un breton, quoi, qui m'emmène chez ses parents. Après, il y avait un autre pote à lui qui faisait du rap. Il s'appelait Titan Galsen. On est allé manger chez lui. C'est un Sénégalais qui rappait, qui était breton aussi. Enfin, je veux dire qu'il y a quand même un truc à travers cette musique, ou bien les musiques, qui est assez universelle, quoi. Quand même, la langue musicale... Moi, il y a un truc qu'on m'a appris longtemps, c'est que 70% du langage est non-verbal. Et ça s'expérimente à travers tout ça, quoi.
Samir, toi, tu as traversé la France, t'es allé de Barbès, Lyon, Marseille. Vous verrez la suite de Rise Not Dead, du coup, qui est disponible sur Arte, jusqu'en Algérie, à Oran, et dans ton village, dans le village de ta grand-mère. Ouais. Comment tu as trouvé les gens que tu as rencontrés face aux mutations du rail, à l'hybridation du rail?
C'est comme dans le hip-hop, il y a des guerres de clans, en fait. Et tu as des guerres intergénérationnelles. Et c'était intéressant de voir, en fait, ce qu'on reprochait aux pionniers de l'époque, c'est d'apporter une exclusivité ou une innovation sonore avec un nouvel instrument qui venait de l'héritage colonial ou une nouvelle technique de chant. Et finalement, l'autotune est blâmée de la même manière aujourd'hui. Et c'est assez marrant. Et puis, finalement, ce qui est aussi intéressant, c'est de faire le parallèle entre ce qui est devenu le rail d'un point de vue industriel et aussi technologique avec l'autotune qui est vraiment devenu la colonne vertébrale du processus de création. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans ce que je déteste comme catégorie, mais comme la pop urbaine. Et pour citer Jul et ainsi que d'autres artistes, l'autotune est vraiment omniprésent dans les sons d'aujourd'hui, dans le processus créatif. Évidemment, il y a toujours des exceptions, et je parle de généralité là pour grossir les traits. Mais c'était intéressant en fait d'avoir un peu ce choc générationnel et en même temps, à contrario, voir que la jeunesse se met au goût du jour, elle se structure, il y a beaucoup de studios amateurs qui pop-up un peu partout dans le pays, tout le monde veut devenir ingénieur du son, tout le monde est autodidacte, et je trouvais ça vraiment intéressant parce que finalement, comme je le dis très souvent aux gens, mis à part les gens qui sont issus de la diaspora, on n'est pas connu pour être le pays le plus touristique, les Algériens. On est d'accord. Bon, mais en tout cas, je voulais vraiment que les gens aient un baromètre objectif de ce qui se passe actuellement, et vous le découvrirez peut-être si vous êtes assez curieux. Je parle du rail, mais je parle aussi beaucoup de genres plus urbains qui corrèlent un peu avec ce qui s'est passé dans le hip-hop des années 90 avec Alger, qui descendent un peu naturellement de ça. Et donc, du coup, c'était intéressant pour moi de voir ce choc intergénérationnel, mais en même temps, l'évolution. Parce que, par exemple, là, le rail 2.0, ce n'est pas forcément quelque chose que je consomme moi, mis à part dans un cadre festif, mais c'est vraiment très... très, très occasionnel, quoi. Je suis plus un mec des vinyles, etc. Je suis plus dans ce truc-là et dans une période 70-80. Et donc, c'était intéressant quand même de redécouvrir ça, moi, à ma sauce, et puis le faire découvrir aux gens.
Sheng, toi, tu disais, tu as commencé à rapper en chinois pour ta famille, pour qu'en fait, ils puissent comprendre ce que tu dis dans tes chansons. Comment ça a été pris, justement, dans ta famille en Chine, le fait que tu rappes? Est-ce qu'ils aiment le rap? Est-ce qu'ils ont compris ton message quand tu rappais en chinois?
Alors, je pense que ma famille, ils ne savaient même pas c'était quoi le rap. Et comment ça a été pris? En soi, ça a plutôt bien été pris. Surtout que, enfin, dans ma famille en soi, c'est pas des personnes qui écoutaient énormément de musique. Enfin, je me souviens quand j'étais en Chine, enfin, si, ils écoutaient beaucoup de musique, mais il y avait souvent en fond sonore qui étaient les chants bouddhistes. Même, enfin, en France, ma mère, elle écoutait énormément de chants bouddhistes. Et non, ça a été plutôt bien pris. Je pense qu'ils n'ont jamais, enfin, là encore aujourd'hui, ils comprennent pas trop ce que c'est le rap, mais ils aiment bien. Ils disent bon, bah, c'est chanté, ça va. On aime bien tes paroles. Mais ça a été bien pris parce que franchement, dans ma famille, il n'y a aucun artiste. Il y a eu un peu des carrières artistiques qui ont été avortées parce que, bah, par exemple, ma grand-mère, ma maman, quand elle était jeune, elle avait eu une opportunité pour se lancer dans une carrière musicale en Chine. Et mes grands-parents avaient refusé parce que les temps en Chine, à ce moment-là, c'était très, très dur. C'était une famille assez pauvre et... Il y avait ce côté où les études, c'était vu comme un moyen un peu le plus sûr, entre guillemets, de s'émanciper, de s'élever socialement, enfin de gagner de l'argent, quoi. Et alors que la musique, c'était vu comme étant quelque chose de très périlleux. Et donc, je pense que ça a été accueilli plutôt favorablement et qu'ils sont, heureux pour moi de voir que là, aujourd'hui, je pense que je suis quand même une des générations, enfin, je fais partie de la génération de chanceux, entre guillemets, quand je vois les conditions dans lesquelles ma maman ou même mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont vécu. Et donc, ils sont heureux que moi, j'ai cette chance, en fait, de pouvoir faire la musique, quoi, contrairement à eux.
Kondo, quand toi, tu es retourné au Bénin, ça faisait plusieurs années que...
40 ans, oui.
40 ans. Comment on t'a accueilli là-bas? Est-ce que tu as eu un choc des cultures ?
Non. Est-ce que j'ai eu un choc des cultures ? Alors, c'est très étrange parce que c'est une succession d'événements qui donnent le sentiment que tout était écrit. Alors, je résume. Donc, c'est pas très. J'ai du mal à résumer tout ça, mais en gros, à partir du moment où je fais la démarche de parler à mon père et d'écrire à mon père et de s'en parler au téléphone, donc je me retrouve troisième de cette fratrie de 8 enfants. Au moment où il décède, quelque part, moi, j'étais déjà pacifié. Donc, j'ai envie de dire, les choses avaient été dites et faites. Et puis, s'amorce une procédure de divorce. Et donc, je me retrouve un peu seul dans la vie face à une famille où il y a une fratrie, il y a du monde. Et je regarde le ciel et je dis, mais putain, j'en ai marre d'être tout seul, quoi. Et là, en fait, mon frère m'appelle pour me dire, mais en fait, c'est là où il m'apprend, en fait. Il me dit, ouais, non, mais t'es le troisième, on est 8 dans la famille et tout. T'inquiète pas, t'es pas tout seul. Donc déjà, ça, c'est un premier truc. Après, quand je vais au Bénin, donc je contacte en fait mon ancien manager, Arnaud Unjo, et lui, il me dit, non, mais moi, je vis au Bénin déjà depuis 2 ans. Il me dit, si t'as besoin, je te file un coup de main pour réaliser tes clips et tout. Moi, ce qui était important pour moi, ce n'était pas tant de faire mes clips, mais surtout de retourner sur ma terre natale et puis d'aller dire bonjour à mon oncle, m'occuper de la tombe des grands-parents, etc. On y va, on fait ça. Et puis finalement, il me dit, ouais, mais moi, je travaille avec des gens qui sont dans l'audiovisuel, Kondo, enfin, le Bénin, ça a bougé sur ces 5 dernières années, t'imagines pas. Donc j'y vais et j'arrive. Effectivement, je vois une Afrique de l'Ouest qui est en ADSL2, qui n'est pas encore en haut débit, mais qui n'est pas loin. Et justement, j'attends ça, j'attends le haut débit. Sur le Bénin et l'Afrique de l'Ouest et tout. Et donc, Arnaud donc, me fait travailler avec une équipe locale et ils sont tous de la génération YouTube. Donc, en fait, ils sont tous formés à YouTube et ils sont hyper compétents. Au-delà de ça, je vais voir mon oncle pour lui dire, on va s'occuper de la tombe des grands-parents parce que ça, je m'en faisais un devoir d'aller poser des fleurs sur la tombe de mes grands-parents qui m'ont élevé. Et donc, quand j'arrive avec Arnaud, il me dit, mais en fait, la mère d'Arnaud, c'est ta tante, c'est ta grande-tante, vous partagez le même sang. Donc, en fait, lui et moi, on est cousins depuis, on est potes depuis 15 ans, mais on ne le savait pas qu'on était cousins, quoi, vraiment. Donc, déjà, premier truc. Après, le jour où je pars au Bénin, mon meilleur ami à qui j'ai donné le nom de mon personnage principal, Manga, part le même jour que moi. Genre 2 heures avant. Donc en fait, on se retrouve au pays au même moment pour finalement raconter un bout de cette histoire dans lequel je l'ai immortalisé, dans lequel en fait toutes nos énergies elles sont arrivées et elles ont convergé quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé finalement à faire le prix en travaillant avec un boxeur avec Clément Locot qui est le champion d'Afrique des poids Walter, et puis les équipes de production locales. Voilà.
Samir, toi, tu es collectionneur de vinyles et de cassettes rares. On est tous les 4 issus de parents qui ont migré de leur pays d'origine pour venir en France. Et je ne sais pas s'ils partagent ça comme moi, mais eux, ils se voient dans l'avenir, en fait, faire des choses pour aller plus loin dans l'avenir. Est-ce que ce n'était pas bizarre pour tes parents que tu ailles diguer des choses du passé ?
Mon père le faisait déjà à son échelle, lui, modestement, avec ses moyens. Moi, j'ai des souvenirs de mon père et moi allant au collège et il me faisait écouter du Dahman Harachi, enfin, du Shaabi algérois, etc. Donc, c'est lui, justement, qui m'a plutôt ouvert les portes. Et puis après, moi, je me suis infiltré dedans et j'en ai fait ma passion. Parce que de base, je suis scientifique et ça, ce que je fais à côté, c'est ce que je fais tous les soirs, toutes les nuits, activement. Et mes meilleurs potes en sont témoins. J'ai pas de vie à côté de ça, en fait. Je fais que ça. Mais au contraire, enfin, au départ, ils ne comprenaient pas. Là, on le voit avec le spectre du rail, mais comme je le dis, de tous les 5 continents, j'ai 10 000 disques à la maison et je traverse tous les continents parce que je suis sensible à beaucoup de musiques différentes. Et eux ne comprenaient pas en fait comment j'ai pu développer cette appétence pour autant de genres différents. Mais mon père l'a compris après. Enfin, il voyait que j'étais très curieux de base. Et comme pour les sciences, pour la musique, c'est la même chose. Je voulais découvrir des choses. Et pour moi, c'était un moyen de voyager et puis de reconnecter avec des communautés. Et encore une fois, ça me réconfortait dans le fait que je trouvais des dénominateurs communs entre des communautés dont on voulait nous faire croire qu'elles étaient tant éloignées géographiquement et culturellement. Et je trouvais ça super intéressant. J'ai continué dans mon truc comme ça jusqu'au bout. Et puis évidemment, le rail en est la consécration parce qu'il y a aussi le facteur culturel et puis toute la dimension familiale qu'il porte chez moi, dans mon histoire personnelle. Et la consécration, ça a été le documentaire. Mais ils l'ont compris, mais on va dire qu'ils l'ont compris en milieu de parcours. C'est vrai qu'au départ, quand tu ramènes des disques et des disques et des disques chez tes parents, bon, moi, je viens d'une classe moyenne, donc mes parents, ils ont d'autres priorités. Pareil, je rejoins ce que tu disais, c'est que moi, mes parents, ils ont vraiment voulu que j'ai un cursus académique et leur priorité, c'était ça. Pour eux, il était inconcevable que je sois un artiste, quelle que soit la dimension de l'artiste. Pour eux, un artiste, ça peut être un peintre, un collectionneur, tout ce que tu veux, c'est un fourre-tout en fait. Et ils ne comprenaient pas ça. Mais ensuite, ils l'ont compris parce qu'il y a une démarche historique derrière, de vulgarisation. Je fais des conférences où j'explique aux gens ce qui se passe historiquement aussi. Et donc voilà, je n'étais pas juste, et quand bien même si je l'étais, je n'étais pas juste divertisseur. J'étais vraiment aussi là pour raconter un peu une histoire. Donc ils l'ont compris. Mais la consécration, évidemment, a été le documentaire, ouais, clairement.
Et toi, Cheng, est-ce que tes parents comprennent, du coup, on parle d'artiste?
Alors, je pense que mes parents, ils ont tous les deux fait un peu leur cheminement pour accepter. Ma mère, tout de suite, elle m'a beaucoup supportée, parce que du coup, pour les raisons que je t'avais expliquées, elle, quand elle était jeune, elle aurait voulu faire du piano, elle chantait bien, donc elle aurait pu être prise dans une comédie musicale, mais pour ses parents, c'était hors de question. Et ce que je comprends maintenant avec du recul, parce que les conditions étaient tellement dures sur le moment, enfin voilà. Et donc elle, rapidement, quand j'étais toute petite, dès l'âge de 6 ans, elle m'a tout de suite fait faire des cours de piano, parce que voilà, je pense que c'était un de ses rêves. Elle voulait me donner un peu ce qu'elle elle n'avait pas eu. Et donc c'est pour ça que quand je lui ai dit, bon bah maman, j'aimerais bien, je me suis un peu lancée dans le rap et j'aimerais vraiment beaucoup vivre de ça quand même. Et au début, il était là en mode, c'est quoi le rap? Mais bon, c'est la musique, donc ok, ça me va. Et je pense que mon père, ça a pris un peu plus de temps. Au début, il était un peu là, genre, bon, ça va lui passer, c'est une phase. Et mon père, lui, de base, il est très aussi, c'est aussi un immigré. Enfin, il est d'origine libanaise. Il est né à Beyrouth et il est venu en France quand il était jeune. Et en fait, toute ma famille, que ce soit chinoise ou libanaise, en fait, il y a eu une forme... comment dire, ils ont amélioré leurs conditions de vie qui de base étaient assez précaires par l'éducation, par les études et en ayant un métier stable entre guillemets. Et du coup, je pense que c'est ce qu'espérait un peu mon père. Il s'est dit bon bah ça va lui passer, elle va après se reprendre entre guillemets et aller dans un cursus plus normal entre grosses guillemets. Et là aujourd'hui, ça fait 3-4 ans. Que vraiment, là, je me suis dit, ok, ma priorité, c'est vraiment de vivre de la musique et j'ai envie de faire ça. Enfin, c'est mon rêve et c'est là où je suis heureuse et où je m'épanouis. Et je pense que là, aujourd'hui, il a compris. On a eu une super discussion il y a quelques mois. Il me disait, écoute, désolée si auparavant, j'ai pu ne pas être assez là. Et là, je veux que tu saches que quoi que tu fasses, je veux que tu sois heureuse et je te soutiendrai dans tous les cas, même si c'est en étant rappeuse, quoi.
C'est beau. On a encore quelques minutes. Je vais prendre deux ou trois questions, si vous en avez, pour Cheng, Samir et Kondo.
Ne soyez pas timide.
Non, pas de questions. Pas de question. Si, une question.
Non, en fait, je sais même pas si c'est vraiment une question, mais c'est en tout cas pour dire que je suis heureux de voir que on a pu avoir cette discussion et intégrer le documentaire de Hadj et le nôtre aussi. parce que moi ça m'a permis de comprendre que ouais ce qui fait aussi notre richesse commune, c'est la francophonie en fait qui permet de réunir plein d'origines différentes. Enfin, c'est l'histoire de la France, on va dire aussi, mais c'est aussi la musique et plus particulièrement en ce moment c'est le rap. Donc voilà, moi je suis super heureux de pouvoir échanger avec vous à ce niveau-là et voilà, je sais pas si c'était, enfin j'ai pas d'autres questions vraiment, mais bon, je suis super heureux d'avoir pu vous écouter et échanger avec vous quoi. Voilà.
Merci beaucoup en tout cas, franchement.
Merci pour la question.
Bonsoir. Alors moi j'aurais une question. J'aurais voulu savoir si votre cheminement en tant qu'artiste a été long. Est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez un artiste très tôt, ou alors est-ce que ça a mis beaucoup de temps ?
Pour ma part, je crois que le succès il est arrivé presque trop vite, puisque je sors mon premier album en 1994 à l'âge de 19 ans, avec une première apparition discographique même en 92. Donc en fait, je suis au lycée encore à ce moment-là, et pour moi le rap, c'est beaucoup de fun avant tout, et c'est surtout le fait d'être dans un rêve d'amis. Il aura fallu que je m'interroge sur l'histoire du rap, d'où ça vient, comprendre que c'était une musique qui avait pris racine dans la déportation africaine sur le territoire américain, pour me rendre compte que finalement ce rap là vient de chez moi en fait. C'était ça qui était assez marrant, c'est-à-dire que à 24 ans parce qu'on avait pas mal de débats, j'ai été souvent animé par l'envie de démontrer que le rap était de la musique, parce que pendant près de 15 ans, 20 ans, on disait que le rap c'était juste l'expression des jeunes de banlieue, mais on ne comprenait pas que c'était un rapport rythmique, un rapport à la musique claire, un rapport harmonique, tout ça c'est là. Et donc il fallait démontrer ça, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à faire un parallèle entre le rap et le jazz, ensuite faire des conférences, devenir un chercheur de ma musique, en même temps qu'un acteur de ma musique. Après avoir fait ça, j'ai travaillé à l'Ariam Île-de-France pour former des professeurs à cette pratique-là. Je suis devenu professeur moi-même pendant 9 ans au conservatoire de Puteaux, depuis 4 ans au conservatoire régional de Cergy-Pontoise. Et pour moi, en fait, toute cette pédagogie-là, elle a été le fruit d'un cheminement de passionné, comme toi tu peux l'avoir, entre autres, et puis comme toi aussi, je suppose. C'est d'abord le fruit d'une passion. Mais cette passion-là, il fallait la crédibiliser. Et donc, c'est au moment où j'ai fait le choix de faire ce que des gens avant moi avaient fait comme choix. Je pense à Charlie Parker, je pense à Miles Davis, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis dit, il va falloir qu'on porte un peu notre sac à dos, qu'on prenne le bâton de pèlerin et qu'on aille expliquer aux gens ce qu'on fait et qu'on le fasse bien. Et c'est à ce moment-là, je pense que je suis rentré en cheminement, en démarche. Et je suis passé d'artiste, de passionné à artiste, d'artiste à transmetteur de relais. Et ça fait 30 ans que ça dure.
Je vous remercie.
Mais moi, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il en est pour la nouvelle génération.
Moi, je trouve ça hyper intéressant, comment dire, un peu la distinction que tu fais entre passer de passionné à artiste, parce que, enfin, comment dire, moi, je pense que ça a mis beaucoup de temps et c'est très récent. Comment dire ? C'est-à-dire qu'en fait, moi, je viens d'une famille, d'un lieu où on n'écoutait pas beaucoup de musique. C'est-à-dire ma mère, comme j'ai dit, elle écoutait beaucoup de chants bouddhistes, mais c'est tout. Et c'est vraiment, donc c'est très tardivement. Là, je viens d'avoir 23 ans, mais ça met 18 ans où j'ai découvert le rap. Et en fait, c'est en entrant à la fac. Et je me suis fait un groupe de potes en fait, qui écoutaient que ça, qui en soirée, à chaque fois, faisaient des freestyles. Il y en a qui avaient déjà sorti des sons. Et quand je leur ai dit que je connaissais juste pas grand-chose, ils m'ont dit « Mais quoi ?» Et genre, ils ont commencé à tout me faire écouter. Et, Et ça a été incroyable. Enfin, pour ça, mes 18 ans, c'était assez marquant parce que du coup, enfin, j'aime pas cette expression, ça fait très neuneux, mais ça a été un peu le coup de foudre, entre guillemets. Et enfin, je passais ma vie, je regardais plein de clips, j'écoutais plein de sons, genre la nouvelle génération, l'ancienne génération, parce que je connaissais rien. Et quand j'ai commencé à écrire, quand je faisais les freestyles, ou même quand j'ai commencé à enregistrer en studio, moi, je refusais un peu le qualificatif d'artiste, entre guillemets. Enfin, je me trouvais pas forcément légitime parce que, comment dire, enfin, voilà, j'aurais plus aimé le terme de passionné parce que j'avais ces amis autour de moi qui faisaient la musique depuis longtemps, qui enregistraient depuis longtemps. Et pour moi, eux, c'était vraiment des artistes, entre guillemets. Et, enfin, et même quand, enfin, là, ça fait un an et demi que j'ai été signée en label. Et même à ce moment-là, je me disais, enfin, j'avais du mal avec le qualificatif d'artiste et même de rappeuse. Et je pense qu'il y a eu un peu un moment déclic où, comment dire, enfin, l'été dernier, pendant 2 mois, j'ai pas réussi à écrire. Enfin, c'était un peu la page blanche et enfin, juste, j'allais pas super bien. Et je me posais beaucoup de questions, justement. Je me disais, mais est-ce que en fait, je suis vraiment légitime à continuer, entre guillemets, enfin, comment dire, oui, est-ce que je suis légitime d'être justement artiste ou quoi? Et bah, finalement, j'ai décidé que oui, et du coup, voilà. Mais ça a été un cheminement un peu en ascenseur émotionnel.
Bah, en tout cas, merci pour vos questions. Merci d'avoir été là ce soir. On est obligé d'arrêter la conversation parce qu'on doit rendre la salle. Et bah, je vais remercier aussi vraiment de tout cœur la place hip-hop de m'avoir fait confiance et d'avoir intégré cette projection dans la L2P Convention. Et bien sûr au Forum des Images qui nous a offert cette super belle salle. Et je tiens à remercier vraiment de tout cœur Sheng qui a été là. C'est la deuxième fois qu'on fait ça ensemble. Kondo, merci pour la confiance et Samir également. Et merci pour le documentaire.
La place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.